zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans les ondes buissonnières. Au milieu du champ sort coule le Drac, torrent de montagne majestueux et tempétueux. Ce documentaire sonore, réalisé grâce au soutien de la communauté de communes du champ sort Valgaudemar, va à la rencontre des voisins du Drac, de ceux qui partagent son quotidien. Une plongée sonore dans le Drac, colonne vertébrale du champ sort, aux côtés d'un artiste, d'un ingénieur hydraulique, d'un ancien maire, d'un pêcheur, d'un agriculteur et d'un naturaliste. Très bonne écoute à tous et à toutes.
Dans la vallée du Champsaur coule le Drac, torrent de montagne majestueux et tempétueux. Pour tenter de le comprendre et de le saisir, je suis allé à la rencontre des habitants du Champsaur, de ceux qui sont les voisins du Drac. Et au milieu coule une rivière. Un documentaire d'Antoine Guérimand.
Je m'appelle Christophe Galeron, je suis artiste visuel et je trouve que j'ai grandi dans cette vallée du Champsaur au bord du Drac. On s'approche de l'intersection des deux Dracs, du Drac noir et du Drac blanc. L'eau est pas très loin et il y a de la brume au-dessus de nous qui est aussi de l'eau.
Où sommes-nous ?
Entrée de la vallée de Champollion.
À quelle fréquence voyez-vous le Drac ?
Une fois par semaine.
Quelle relation avez-vous avec le Drac ?
Sentimentale. Ça y est, on a trouvé le Drac noir, donc c'est son extrémité. Si on se tourne vers le bas de la vallée, on a ce chaos de la rencontre des mouvements qu'on imagine du Drac quand il est plus gros, plus en colère. Et puis on a aussi des présences humaines, en tout cas des marques humaines. On a un pont, en tout cas des blocs de béton, des structures qui ont été emportées. Et puis plus loin, on a une sorte de monolithe, de blocs de béton qui évoque cette activité comme ça sur le Drac, l'activité humaine. Comme à beaucoup d'endroits, le Drac est laissé à sa propre liberté d'une certaine manière. Là, on voit clairement qu'il est passé à droite ou à gauche et qu'en fait, il prend la place qu'il souhaite. Je trouve ça fort qu'il vienne comme ça nous dire « Bon, ben, je suis là et c'est moi qui dis, en fait. C'est moi qui décide où je vais passer. »
Pas de doute, à Champollion, le Drac est sauvage. Mais qu'en est-il en aval ? Je suis descendu jusqu'à Saint-Bonnet en Champsaur pour rencontrer Bertrand Breil de la Cléda, l'organisme qui gère le Drac.
On n'essaye plus de le domestiquer. C'était le cas par le passé. Il était d'un commun réflexe d'endiguer le Drac, hein, de lui réduire la largeur de son lit, de le contraindre entre des digues. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille complètement différemment cette approche de gestion des crues, justement en essayant de redonner le plus de place possible au lit. Plus le lit du Drac est large, en somme, et plus l'eau a de la place pour passer, et donc moins les crues sont puissantes, quoi. Le Drac, à l'origine, il y a bien longtemps, il avait un lit très large qui, même grosso modo, partait d'un versant et allait jusqu'au versant d'en face. L'idée aujourd'hui, c'est pas de rétablir cette situation-là, parce que les choses ont bien changé, mais c'est quand même de conserver un espace de bon fonctionnement à la rivière. C'est d'ailleurs intéressant à la fois pour la maîtrise des crues, mais aussi pour l'atteinte du bon état écologique de la rivière.
Quel est votre travail ?
Directeur de la CLEDA, la communauté locale de l'eau du Dracamont.
À quelle fréquence voyez-vous le Drac ?
Plusieurs fois par jour.
Quelle relation avez-vous avec le Drac ?
Fusionnel.
Quel est votre endroit préféré sur le Drac ?
Joker, parce que j'en ai trop, quoi. Et il change en plus chaque année.
Je suis remonté à Champollion pour rencontrer Roland Pascal, l'ancien maire du village.
Le Drac, on y tient particulièrement, mais enfin avec tous les soucis et tous les problèmes qu'il nous a apportés. Parce que les problèmes de crue, il y en a eu pas mal. On est plus tranquille quand les crues sont terminées, où l'eau passe où elle veut quand elle veut. Quand il y a un orage comme ça, ou des pluies torrentielles, il passe où il veut quand il veut. Comme on disait les anciens, on entend rouler les pierres. Donc quand on entend rouler les pierres du Drac, c'est qu'il est en train de creuser, il fait son lit. Les vieux disaient ici, la pluie est finie, le Drac fait son lit. Parce qu'il refaisait sa place et il s'enterrait. Alors qu'au début, quand il est boueux et tout, on a l'impression qu'il court à droite et à gauche sur la gravière.
À quelle fréquence voyez-vous le Drac ?
Tous les matins, en ouvrant mes volets.
Quelle relation avez-vous avec le Drac ?
Je pense sonore. Parce que ça, nous, c'est, on sort sur le balcon là et on écoute le Drac. Et si c'est de nuit comme de jour. Parce que le soir, quand je ferme mes volets, on l'entend. Ça, je vous garantis. On sait qu'il est violent ou qu'il n'est pas.
Ça m'intéresse, moi, le bruit du Drac. Alors je suis allé l'enregistrer depuis les fenêtres de Roland Pascal.
On avait une vieille personne qui est morte ici à 101 ans et demi. Donc, il était né, je crois, dans les années 1877. Et il disait qu'à l'époque, les vieux, quand ils coupaient du foin à la faux, ils s'envoyaient d'une berge à l'autre de Drac, ils s'envoyaient le marteau et l'enclume pour taper la faux. Alors qu'aujourd'hui, le Drac, à part au passage des ponts où il a 15 mètres, à des endroits, il dort 200 mètres de large. C'est vrai que c'est un combat, parce que le Drac, il prend toujours de plus en plus de terre. Entre les Dracs et les ruisseaux, ils ont quand même pris beaucoup de terres cultivables où les gens sont partis. Il y en a qui sont partis sur Gap, il y en a qui sont allés parce que leur terre a été menacée, ou alors dans le torrent par exemple du Touron, il y a eu des grosses crues et les terres ont été engravées, comme on disait à l'époque, elles étaient engravées, et les gens ils sont partis, ils ont vendu, ils sont allés acheter à Gap. Le Drac vient rogner sur les terres de l'homme, parce que quand on sort là-dedans, vous voyez, de temps en temps, il va taper dans le talus là-bas. Et quand il tape un peu au pied, hop, la terre descend, et puis ça continue toujours de rogner un peu.
Le Drac s'élargit et prend des terres cultivables, mais pour Bertrand Braille de la CLEDA, c'est un choix assumé.
On lui laisse de la place, et puis les mécanismes en fait, de transport des matériaux, les mécanismes hydromorphologie de la rivière sont mieux maîtrisés, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des bancs de gravier qui se forment, des tresses avec de la végétation et des îlots de végétation qui se forment au milieu d'un lit large, et tout cela c'est très intéressant à la fois pour une bonne gestion des crues, mais aussi pour le bon état environnemental de la rivière, avec un milieu qui est très riche d'un point de vue environnemental, et puis aussi qui participe à l'amélioration de la qualité des eaux.
En me promenant le long du Drac, je suis tombé sur Noël Mauberet, président de la truite Champsorine, une association de pêcheurs. Pour lui aussi, le Drac va mieux qu'avant.
Alors nous sommes ici au pont de Saint-Bonnet sur le Drac, à un endroit où il y avait un seuil infranchissable qui posait de gros problèmes pour la migration des truites. Et ce seuil a été brisé et a été remplacé par toute une série d'équipements qu'on peut voir. Un passage pour les canoës, un passage pour que les truites puissent remonter facilement. Et du coup, évidemment, la morphologie des lieux a changé favorablement. Les truites dans le Drac sont des truites fario. Et en général, elles ont un lieu privilégié de vie. Elles trouvent un espèce de petit bras de rivière ou alors un endroit calme derrière un gros rocher ou un endroit où la rivière s'étale un peu plus. Et c'est là leur lieu de vie. Mais quand elles vont frayer, c'est-à-dire quand elles vont se reproduire, elles ont tendance à remonter la rivière. Quand le drac forme des tresses, ça veut dire multiplication des petits bras, multiplication de petits rochers, de petites pierres, de caches pour les truites, et aussi création de frayères, puisque dès qu'il y a un petit bras, en général, on a les petits graviers qui arrivent, et les petits graviers, pour une truite, ça veut dire une frayère potentielle.
Le drac est donc une rivière en tresse, un type de rivière qui tend à disparaître avec l'endiguement des cours d'eau. Et le drac n'y avait pas échappé. Mais de gros travaux ont eu lieu il y a quelques années pour lui redonner sa largeur.
Donc ces rivières en tresse, effectivement, ces dernières décennies, elles ont largement disparu, de par le fait qu'on a essayé de les canaliser. On en revient, hein, on réélargit le lit des cours d'eau maintenant.
Bertrand Braille, directeur de la Cléda.
Ces travaux de restauration là que l'on a pu faire et qui sont d'ampleur, hein, puisque c'est les plus gros travaux de restauration de rivières en France, donc on les a réalisés ces travaux en 2013-2014. Mais on les a réalisés face à une problématique d'enfoncement du lit du drac. C'est-à-dire que le cours d'eau s'incisait, en fait, s'encaissait. Et le problème, c'est que toutes les berges et les versants, du coup, suivaient cette même tendance, c'est-à-dire glissaient. Donc on avait un enfoncement du lit du drac avec des glissements de terrain. Et cet enfoncement, il n'était pas possible de le laisser s'amplifier davantage, hein. La restauration, en fait, s'est manifestée par une recharge sédimentaire. C'est-à-dire qu'on a rehaussé le fond du lit du cours d'eau. Et pour le rehausser, ben, on a élargi, on a pris les matériaux sur les berges, hein, principalement. Donc, on est en élargissant le lit de drac. C'est une opération qui a un caractère innovant, hein, un peu expérimental. Pour l'instant, ça fait 7-8 ans qu'elle a été réalisée. Et cette opération de restauration est vraiment intéressante, hein, à double point de vue pour mieux gérer les problématiques de crue, mais également pour considérablement améliorer la situation environnementale du cours d'eau, quoi.
Le rôle de la Cléda est de contrôler le drac. Mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit qu'ils subissaient le drac plutôt qu'ils le maîtrisaient. Alors je suis allé rencontrer François Ricoux, directeur général des services de la mairie d'Orcières, pour savoir si, à Orcières, ils avaient l'impression de le contrôler.
Le contrôler, non. Il y a des digues qui ont été construites pour protéger les aménagements, les habitations qui étaient menacées. Donc ça peut être un contrôle, mais après souvent on subit, on répare plus que ce qu'on contrôle, quoi. Parce que les événements sont toujours plus ou moins inattendus. C'est jamais au même endroit que les choses se produisent, parce qu'il y a tout un aléa sur des chutes d'arbres, sur des éboulements, des choses comme ça qui font que ça passe à droite ou que ça passe à gauche. Et que ça, donc c'est, forcément c'est un peu incontrôlable.
Quelle relation avez-vous avec le drac ?
L'acoustique, le drac et ses affluents, que sont les petits torrents qui descendent des versants. C'est un fond sonore qui est permanent dans la vallée. Et on peut évaluer le volume de l'eau au volume sonore. Et on surveille ça souvent quand au moment des orages ou des pluies importantes. Rien qu'au bruit de l'eau, on arrive à savoir s'il y a des risques de dégâts ou s'il n'y en a pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme le drac, il occupe tout le fond de la vallée, toute la partie plate de la vallée, c'est forcément des voisinages un peu difficiles des fois, parce que dans la partie plate, on a voulu installer des terrains de jeu, une base de loisirs, un camping, et forcément, avoir un voisin comme le drac, c'est toujours un peu délicat, parce qu'il faut toujours surveiller, il faut toujours être attentif aux dégâts, et puis les réparer souvent.
Le drac est comme une pulsation dans la vallée. Quand il est gros, on le regarde avec crainte. Quand il est petit, on s'inquiète pour lui. Et ce n'est pas Fabrice Borel, président de la communauté de communes et éleveur, qui dira le contraire.
Le Drac, il passe déjà au milieu de la vallée, il a 52. C'est la colonne vertébrale parce que toutes les rivières arrivent dans le Drac. La Sèvre-Essette et la Sèvresse se rejettent dedans pour aller jusqu'au Sauté. On peut rajouter la Souloise dans l'Évoluy qui vient aussi dans le Drac. Donc c'est la colonne vertébrale de notre vallée. Je le regarde tous les jours. Quand je passe l'été, je regarde où on en est, voir s'il coule beaucoup. Quand il pleut, je regarde voir s'il a beaucoup monté, je regarde si l'eau est noire. Que ce soit au Pont Blanc, quand je viens à la communauté de communes, ou de ce côté, je regarde toujours le Drac. Ouais. C'est jamais pareil, il est 4 saisons. Il n'y a jamais les mêmes volumes, il n'y a jamais les mêmes choses, il n'y a jamais les mêmes couleurs. Donc voilà, il change toute l'année.
Quelle relation avez-vous avec le Drac ?
Il a toujours été là et on y tient. Donc je sais pas comment, je sais pas quel mot trouver pour vous dire voilà que attaché.
Bertrand Breil est aussi attaché au Drac. Il m'explique que le torrent donne le tempo de la vallée.
Le Drac, c'est une bonne pulsation. Au moins le premier, quoi, hein, avec le travail qu'on peut réaliser, c'est plus qu'une pulsation, quoi. Voilà, moi, je considère vraiment comme la colonne vertébrale, finalement, de cette vallée du Champsaur. Quel que soit le sujet, tout peut se rapporter au Drac. Mais je crois que c'est encore plus large que le Drac, c'est cette eau, en fait. Hein. C'est cette eau dans la vallée qui, quand même, est très précieuse, et qu'on a la chance d'avoir des milieux et une ressource en eau qui est tout à fait somptueuse. Encore de grande qualité et que voilà, il y a vraiment des enjeux forts pour la préserver.
Ce qu'il faut préserver, c'est le Drac, mais aussi tout ce qu'il y a autour. C'est tout un milieu de vie, m'explique Marc Corail, garde-moniteur au Parc National des Écrins. Je l'ai accompagné observer la faune sur les berges du Drac.
On est sur la commune de Saint-Laurent-du-Croix. Et on domine un beau méandre du Drac, un des rares endroits finalement où on a un peu de hauteur, donc on a une vue plongeante sur le torrent. Et c'est un endroit que j'aime bien parce que finalement pour faire des suivis sur les oiseaux, c'est un beau point de vue. Là c'est sympa, on est dans le givre profond. Juste le soleil arrive rasant sur le sommet de la Répicile. Hein. Le sommet des Bouleaux commence juste à prendre les premiers rayons de lumière. Le Drac est pas très gros, pas très bruyant, parce que voilà, c'est l'hiver, c'est un peu l'étiage finalement. Et c'est un moment où la rivière est assez calme. Le Drac, il est intéressant pour certains oiseaux qui viennent nicher sur ces bancs de galets. Je pense aux chevaliers guignettes, au petit gravelot par exemple. Alors ils ne seront pas là en ce moment parce que c'est des migrateurs, donc l'hiver ils s'en vont. Par contre il y a d'autres espèces qui sont là l'année, le cincle plongeur, le héron, des canards, des colverts par exemple. Et puis une autre espèce aussi qui est finalement toute nouvellement installée sur le Drac, et même dans le département, et même à l'échelle de la région, c'est le harlebièvre, qui est un canard piscivore, et qu'on connaissait sur les grands lacs du nord des Alpes, hein, le lac Léman, et le lac d'Annecy, le lac du Bourget, et puis petit à petit, il s'étend vers le sud. Et puis là, on commence à voir les premiers oiseaux qu'on voit régulièrement un petit peu sur le Drac, et on a vu les premiers indices de reproduction avec des jeunes, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Alors sur le Drac, on cherche, mais on n'a pas encore trouvé où a niché cet oiseau. Et du coup, moi ici, c'est un endroit où j'espère un peu pouvoir les observer. Parce qu'avec une bonne longue vue, on observe quoi ? Allez, je dirais bien 600 mètres de rivière, là, 600-800 mètres de rivière.
Où sommes-nous ?
Alors, on est les pieds dans une ancienne décharge, au-dessus d'un beau méandre du Drac, face au village de Saint-Julien-en-Champsaur.
Quelle relation avez-vous avec le Drac ?
Holistique.
Pourquoi ?
Parce que c'est un tout, c'est de le regarder dans sa totalité en croisant tous les liens qu'il peut avoir avec tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il constitue. Les deux espèces principales qu'on va voir dans des eaux claires comme ça sera la truite fario et le chabot. Après, on a tout un cortège d'invertébrés aquatiques dont se nourrissent d'ailleurs essentiellement ces poissons. Et puis après, il y a le torrent, mais il y a toutes les petites arrivées, les petits réseaux de petits adous dans lesquels, par exemple, il y a l'écrevisse à pattes blanches. C'est vraiment relictuel, c'est vraiment un certain petit endroit. C'est en grand déclin et notamment parce qu'elle a été concurrencée par des écrevisses pas autochtones, des écrevisses à pattes rouges, l'écrevisse américaine par exemple aussi.
Oh, qu'est-ce qui court là-bas?
Ah oui, qu'est-ce que c'est? Un chevreuil. Un chevreuil qui court sur les bancs de gravier en bord de drac, et puis tiens, une qui vient de rentrer dans la... Ah, il est magnifique là, il y a les premiers rayons de soleil qui arrivent sur lui, et c'est tout givré, les buissons sont tout givrés autour de lui, c'est trop beau.
On a tendance à dire que pour nous, le drac s'achève au moment où il se jette dans le barrage du Sauté. Mais bon, c'est vrai qu'après, il continue sa vie en Isère, hein, jusqu'à Grenoble, jusqu'à sa confluence avec l'Isère. Passer le barrage du Sauté, c'est une autre rivière. C'est plus tout à fait un torrent de montagne, c'est plutôt une rivière assez semblable à l'Isère. Et d'ailleurs, très peu de pêcheurs champsorins vont pêcher en aval du barrage du Sauté. Déjà pour des raisons d'accès et puis aussi pour des raisons de nature de la rivière.
Officiellement, le drac s'arrête à la confluence avec l'Isère. Mais pour Christophe Galeron, c'est bien le barrage du Sauté qui vient l'arrêter.
Par rapport à l'identité du drac, effectivement, ça pourrait aussi mettre un coup d'arrêt à l'identité du drac lui-même. C'est-à-dire, c'est un peu comme si maintenant c'est fini, tu n'as plus ta vigueur, tu n'as plus ta force. Tu es un lac, tu es calme et plat et sans danger et sans fougue. J'ai fait mes études à Grenoble. Ça me fait toujours bizarre, en fait, de lire Chant sur Drac ou Rue du Drac ou de savoir qu'il passe, en fait. Il est déjà dissous, peut-être, dans d'autres mélanges, en fait, d'autres torrents qui ont dû se mêler à lui. Et c'est comme si j'avais déjà accepté qu'il soit transformé. Et je ne pense pas à lui comme au Drac d'ici, en fait. Il a quitté le foyer, il a fait sa vie... C'est un cousin lointain.
Parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est bien Michel Mauberé de la Truite Champsorine qui a passé le plus de temps au bord du Drac. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser cette question.
À quoi vous pensez pendant toutes ces heures auprès du Drac?
Je pense qu'une des premières choses, c'est l'apaisement. Quand on pêche la truite dans un endroit sauvage, on se sent peu à peu calme et assez tranquille. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'analyser la qualité de l'eau, la qualité des insectes qui sont sur l'eau, regarder si l'eau est plus ou moins claire, plus ou moins froide, s'il y a des éclosions d'insectes. Et en fonction de tous ces critères, on essaie de déterminer comment la truite va bien vouloir mordre. Et en général, on n'y arrive pas. La truite a souvent ses raisons que le pêcheur ne connaît pas.
Et je crois que je retiendrai la même chose du drac. Le drac a ses raisons que les hommes ignorent. Parfois, les hommes essayent de le contrôler, de le maîtriser, mais bien souvent, ils se font dépasser. En tout cas, ils ont toujours un œil sur lui, sur ce drac qui donne le tempo de la vallée. Ce documentaire a été réalisé grâce à la communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar. Musique, Antoine Guériment et Maxence Melot. Avec les voix de Christophe Galeron, Bertrand Breil, Roland Pascal, Noël Mauberet, François Ricou, Fabrice Borel, Marc Corail et avec la participation du DRAC.
Ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières. Diffusion sauvage.
de sonorités apprivoisées.
Yes!